Vous écoutez France Inter, il est 13h30 et à cette heure-ci, eh bien, on retrouve Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire. Bonjour Patrice Gélinet.
Bonjour Claire Servageant.
Quel est le thème du jour ?
Nous allons aller en Italie, au bord du lac de Côme en 1945 pour parler des derniers jours de Mussolini. J'attends la fin de la tragédie et, étrangement détaché de tout, je ne me sens plus acteur, mais seulement le dernier spectateur. Mussolini, février 1945. Deux mille ans d'histoire. Le 29 avril 1945, dans un camion venu du lac de Côme, des partisans italiens jetaient le cadavre de Mussolini sur le pavé de la Piazza Loreto à Milan. À l'endroit même où, 8 mois plus tôt, les fascistes avaient fusillé 15 résistants italiens, la foule, ivre de vengeance, s'acharna pendant des heures sur les corps de Mussolini et de sa maîtresse Clara Petacci avant de les pendre par les pieds à la poutre d'un garage. C'était la fin pitoyable de celui qui pendant 23 ans avait gouverné l'Italie et l'avait entraîné auprès de l'Allemagne dans une guerre qui allait sceller le destin du fascisme et de son chef. Mais depuis 2 ans déjà, le dictateur n'exerçait plus qu'un pouvoir virtuel sur son pays. Il ne gouvernait plus que la moitié nord de l'Italie, occupée par les Allemands. « J'attends la fin de la tragédie », disait-il désabusé à une journaliste, 2 mois avant d'être capturé et exécuté par la résistance italienne près du lac de Côme, le 28 avril 1945.
Où se trouve Mussolini, sa clique ?
Nous avons planqué Mussolini dans une ferme isolée. Les autres sont à Germassino.
Au carrefour, tu prends la route de Giulino de Mazzegra.
Arrête-toi là. Descendez. Va faire le guet et empêche qu'on ne vienne.
Par ordre du commandement général du corps des volontaires de la liberté, j'ai été chargé de rendre la justice au nom du peuple italien.
Non ! Vous ne pouvez pas faire ça !
Pierre Milza, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Fayard un livre qui raconte dans le détail les derniers jours de Mussolini exécuté par la résistance italienne le 28 avril 1945 au bord du lac de Côme, 3 jours à peine après avoir quitté Milan pour tenter de se réfugier en Suisse. Un récit extraordinaire qu'on lit comme un roman policier car il tente de répondre à toutes les questions que pose encore la mort de Mussolini. 65 ans après, dites-vous, elle n'a pas encore livré tous ses secrets.
Elle n'a pas livré tous ses secrets et on peut dire qu'on risque de ne jamais connaître exactement tous les détails, toutes les interprétations. Moi, j'ai essayé, si vous voulez, après avoir fini par accepter la thèse officielle, par m'interroger sur ces interprétations et par dire, dans le fond, au public, voilà ce qui me semble crédible, voilà ce qui me semble probablement faux. Faut savoir que le plus grand historien du fascisme, le plus grand historien italien, qui est mort maintenant il y a une quinzaine d'années, croyait, lui, très, très, très fortement à la thèse d'une condamnation à mort qui ne viendrait pas de la résistance, de la part de la résistance, mais des services secrets britanniques. Churchill, et le nom de Churchill est mis en avant. Alors, il y a plusieurs problèmes comme ça pour lesquels on peut encore hésiter. Et puis, il y a la thèse officielle qui est elle-même très fortement retouchée depuis que cette thèse a été publiée pour la première fois par son auteur ou celui qui dit être son auteur, le colonel Valerio, dans l'Unita, au lendemain même de l'exécution de Mussolini.
Auteur de l'exécution, effectivement, ce colonel Valerio dont on va parler avec vous. Alors, pour mieux comprendre peut-être le contexte d'avril 1945, de cette exécution de Mussolini, il faut peut-être remonter en arrière, vous le faites d'ailleurs dans votre livre, brièvement, en rappelant d'abord que depuis déjà 2 ans, Mussolini n'exerce plus la réalité du pouvoir depuis qu'il en a été chassé en 1943 par un coup d'État. Il a été fait prisonnier, un coup d'État qui s'est produit produit au lendemain même du débarquement allié en Sicile. Il est fait prisonnier par un nouveau gouvernement qui est dirigé par le maréchal Badoglio. Il est libéré par les Allemands et en fait, il n'est plus un peu que l'ombre de lui-même à ce moment-là. Il n'a même plus envie, dites-vous, de gouverner réellement ce qui reste de l'Italie fasciste.
Alors, avec Mussolini, il faut se méfier parce que c'est un personnage ambigu sur beaucoup de points et sur celui justement de l'espérance ou de la désespérance. Tantôt, on l'a vu avec la citation que vous avez faite tout à l'heure, il dit sinon tout est fichu, tout est foutu, tout est perdu. Et puis quelques heures après, parfois quelques minutes après, tout d'un coup, il y a une espèce de regain d'espérance parce qu'il a entendu, par exemple, que von Rundstedt a bousculé les alliés dans la région de Bastogne, parce qu'il a rencontré Hitler et que Hitler lui a reparlé une fois de plus de ses armes terrifiantes qui doivent mettre les alliés à genoux. Alors il reprend confiance pendant quelques temps et puis il retombe. Ça, c'est véritablement le caractère de Mussolini à partir du moment où il a été effectivement éliminé du pouvoir.
Oui, enfin, en tout cas, il est littéralement sous la coupe des Allemands qui l'ont libéré par un coup très audacieux que vous racontez dans un autre livre qui est une biographie de Mussolini également publiée chez Fayard. Il est libéré en septembre 1943 et à la demande des Allemands, il va mettre sur pied un nouveau régime, ce qu'on appelle la République sociale italienne, un nouveau régime dont il expose le programme, dans le nord de l'Italie uniquement, dont il expose le programme à Munich où il se trouve, c'était le 18 septembre 1943.
Nos postulats sont les suivants. Premièrement, reprendre les armes du côté de l'Allemagne, du Japon et de nos alliés. Deuxièmement, préparer sans plus attendre la réorganisation de nos forces armées autour de la formation de la milice. Troisièmement, éliminer les traîtres, en particulier ceux qui jusqu'à 21h30, le 25 juillet, militaient dans les rangs fascistes et sont passés à l'ennemi. Quatrièmement, anéantir les plutocrates parasitaires et faire du travail le sujet de l'économie et la base indestructible de l'État.
Et c'était Mussolini le 18 septembre 1943 annonçant donc le programme de ce qu'on appelait la République sociale italienne qui allait gouverner l'Italie du Nord pendant 18 mois, République de Salo aussi comme on l'appelle, S-A-L-O, hein, je précise, c'est une petite ville italienne du bord du lac de Garde où se trouvait le gouvernement de cette République fasciste dont on vient d'entendre le programme énoncé par Mussolini, un programme anticapitaliste, ce qui peut surprendre.
Alors, il faut savoir d'abord que ce n'est pas à la demande d'Hitler, c'est sur ordre d'Hitler qu'il a décidé, qu'il a fallu choisir finalement de créer cette République sociale. Hitler menaçait tout simplement de détruire la moitié des villes d'Italie du Nord s'il n'y avait pas un ralliement de Mussolini et la création d'un nouvel État qu'on appellerait la République fasciste. Alors là, Mussolini refuse. Dis-moi le mot fasciste, je ne veux plus entendre parler. Ils m'ont trahi. On l'appellera donc la République sociale. Dedans, il y a social et socialiste. Et Mussolini, là, a déjà idée que s'il fallait transiger, s'il faut discuter finalement avec une partie de la résistance, ça sera les socialistes. Il se souvient qu'il a été socialiste. Alors son programme, nous ne l'appellerons pas socialiste, nous l'appellerons plutôt populiste, mais incontestablement, le point fort de ce programme, enfin en tout cas le point d'orgue de ce programme, c'est la nationalisation, c'est la socialisation des moyens de production. Il revient au marxisme.
Et un programme également dans lequel il exprime sa volonté de se venger, on l'a entendu, des traîtres. Les traîtres, à ses yeux, ce sont les fascistes, dont son propre gendre, Ciano, qui ont provoqué le coup d'État, qui a provoqué la chute de Mussolini en 1943. Et c'est un programme très répressif vis-à-vis de la résistance. C'est ça que les Allemands attendent de lui. Au fond, c'est qu'il rétablisse l'ordre dans une Italie où la résistance du Nord, où la résistance commence à se manifester. Et cela avec les éléments les plus durs du fascisme qui sont restés auprès de Mussolini, dont Pavolini, qui est en fait le numéro un maintenant du parti après Mussolini et qui a créé les Brigades Noires.
Voilà, Pavolini,
Farinacci,
toute une équipe finalement qui a participé à ce que le régime, Farinacci également, le régime avait de plus dur, également, entre guillemets, des héros de la guerre d'Éthiopie. Et tous ces gens-là, on va les retrouver autour de Mussolini et surtout autour de Pavolini pour mener une politique qui est effectivement une politique extrêmement dure, une politique de répression. Enfin, faut savoir qu'à partir de ce moment-là, on entre dans ce que les Italiens appellent maintenant la guerre civile. C'est une guerre civile. L'horreur est des deux côtés. Hein. Ça a été bien démontré par la nouvelle génération des historiens italiens. C'est une guerre entre la gauche et la droite, menée avec des moyens souvent terribles et des actes de répression particulièrement violents.
Alors, il fait exécuter son gendre, Ciano, à Vérone, en janvier 44, et puis il lutte contre cette résistance, vous le rappelez, Pierre Milza, représentée dans le nord de l'Italie, celui qui est encore occupé par les Allemands, par deux organisations, le Comité de Libération Nationale de la Haute-Italie, le SLNAI, et le CVL, le Corps des Volontaires de la Liberté, essentiellement à domination communiste, l'un comme l'autre.
Plutôt d'ailleurs le second que le premier, le CVL, parce qu'il y a quand même, il ne faut pas l'oublier, dans ce comité, dans ces comités, des représentants des autres partis de la résistance. Le président Pertini, par exemple, le dernier, celui qu'on a bien connu en France il y a quelques années, dans les années 70, Pertini est socialiste et Pertini est membre de ce comité. Valiani appartient au Parti d'Action et il est membre également de ce comité. Alors, les communistes ne sont pas majoritaires à l'intérieur de ces organisations, mais ils le sont là où ça compte, c'est-à-dire dans la montagne, avec ce qu'on appelle les brigades Garibaldi, et notamment la 52e brigade Garibaldi, celle qui va arrêter Mussolini.
Alors, cette guerre civile est marquée par des représailles très dures, vous le citez, qui explique peut-être ce qui se passera quelques mois plus tard, Piazza Loreto à Milan. C'est en août 44 l'exécution de 15 résistants italiens par les fascistes à Milan, où Mussolini faisait d'ailleurs pour la dernière fois une apparition en public le 16 décembre 1944.
Déjà, on note les signes de la reprise ici, surtout dans cette Milan, porte-étendard que l'ennemi a sévèrement touché sans la faire plier. Camarades, chers camarades milanais, c'est Milan qui doit donner et donnera les hommes, les armes, la volonté est le signal de la revanche.
Patrice Gélinet. Et l'on entendait l'hymne officiel du parti fasciste, Giovinezza, à la suite de ce discours, le dernier discours de Mussolini, vous le rappelez, Pierre Milza, le 16 décembre 44 à Milan. Il a encore confiance, on a l'impression qu'il y croit encore. Nous sommes en décembre 44 et pourtant la situation n'est pas brillante.
Oui, justement, il est dans un moment d'euphorie, mais dans un moment d'euphorie qui est quand même... Il a en face de lui un peuple milanais qui réagit, enfin, qui accueille Mussolini un peu comme il l'accueillait dans les années 30. Or, vous savez, Milan, pour Mussolini, c'est toujours très important. Hein. De Felice a bien montré que plus que romagnol, il était milanais. Les auditeurs qui ont vu Vincere, le dernier film de Bellocchio, savent que tout se noue effectivement dans cette Milan des années 1914, 1920, 1922. Et pour lui, c'est quelque chose de très important de voir le peuple milanais, enfin du moins une partie du peuple milanais, descendre dans la rue pour l'acclamer une fois encore.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, vous nous l'apprenez aussi dans votre livre, c'est qu'il a tenté voyant quand même que ça tournait plutôt mal pour les Allemands, c'est-à-dire ses alliés, il a tenté de négocier une espèce de transition pacifique, peut-être craint-il pour sa vie, avec les socialistes, avec la résistance socialiste, vous le disiez à l'instant. C'est incroyable cette scène que vous racontez, où il se retrouve lui-même directement avec des envoyés, justement, du CLNAI, du Comité de Libération Nationale de la Haute-Italie.
Oui, alors là, ça se passe chez le cardinal archevêque Schuster, archevêque de Milan, qui joue les médiateurs. Et arrive là la plupart des membres du Conseil national de la résistance de Haute-Italie, et puis quelques fascistes, et Mussolini est présent. Et lui essaye de négocier sa vie, en quelque sorte, et celle de son entourage, contre la remise du pouvoir de manière pacifique, le transfert du pouvoir entre les mains des socialistes. Socialistes, parce qu'il sait que ça ne pourra pas marcher avec les communistes, enfin il était trop l'ennemi des communistes, alors qu'il a été quand même socialiste jusqu'en 1916, voire 1918.
Alors c'est un échec parce que la résistance italienne n'est pas du tout décidée à laisser partir Mussolini ou à négocier avec lui. On le sent bien lorsque le 25 avril 1945, cette même résistance annonce qu'elle a libéré Milan.
Oui, Radio Milano libérée.
Au nom du peuple italien, le Comité de Libération Nationale de la Haute-Italie assume tous les pouvoirs civils et militaires. Proclame l'état d'exception sur tout le territoire de sa compétence. Tous les corps armés fascistes sont dissous. Leurs membres doivent abandonner leur poste immédiatement. Tous ceux qui appartiennent aux forces armées allemandes sont déclarés prisonniers de guerre. Des tribunaux de guerre sont constitués. Ils siégeront en permanence et leurs jugements seront rendus au nom du peuple italien et exécutés immédiatement. Les membres du gouvernement fasciste et leurs responsables, coupables d'avoir conduit à la suppression des garanties constitutionnelles, d'avoir détruit les libertés du peuple, créé le régime fasciste, compromis et trahi le sud du pays et de l'avoir conduit à l'actuelle catastrophe, seront punis de la peine de mort.
Alors on le voit effectivement, le sort de Mussolini est réglé au moment où tombe Milan le 25 avril 1945, Pierre Milza Mussolini et les principaux dirigeants de cette république sociale qu'il avait mise en place 18 mois plus tôt.
Alors justement, là il mesure son illusion à l'égard des socialistes, parce que les socialistes italiens, ils sont à ce moment-là en concurrence avec le Parti communiste. Donc ils en rajoutent. Ils en rajoutent, non pas en violence, mais ils en rajoutent en décision concernant les fascistes. Nous sommes dans une Italie pré-révolutionnaire. L'Italie a connu vraiment une guerre civile terrible, une guerre même qui a beaucoup frappé la population. Et il y a une concurrence pour la prise du pouvoir entre les communistes et les socialistes. Ce que c'est pas non plus Mussolini, c'est que, s'agissant des communistes, ils sont dirigés par Togliatti, et Togliatti, au moment de quitter Moscou, où il avait passé toute la durée de la guerre, Staline lui a dit « pas question de faire la révolution en Italie. L'Italie, c'est la part des alliés. Nous, c'est l'Europe centrale. » Donc, quand Togliatti va rentrer et devenir ministre de la justice dans le gouvernement provisoire italien, ceci va jouer. Hein. Donc, mais il ne le sait pas, les socialistes non plus. Donc, il y a cette concurrence entre les deux.
Alors, c'est au moment où Milan donc, est libéré le 25 avril 1945. Le matin même, Mussolini est parti avec plusieurs voitures. Il part vers le nord. Il tente, ou on pense à ce moment-là, qu'il peut encore se battre avec quelques fascistes dans ce qu'on appelle le réduit alpin. Il va à Côme, il arrive le long du lac de Côme. Il n'a pratiquement plus personne autour de lui. Je suis seul, dit-il, parce qu'il est escorté par des Allemands qui sont chargés de l'escorter et en même temps de le surveiller pour pas qu'il s'en aille ou qu'il fasse des bêtises. Et puis par une poignée de fascistes. S'il y a quelqu'un qui va jouer un rôle important, c'est sa maîtresse depuis 12 ans, Clara Petacci.
Alors Clara Petacci, elle a choisi. Hein. Elle pouvait très facilement s'enfuir. Sa famille a réussi à le faire. Mais elle le dit, il y a une lettre à sa sœur qui est tout à fait claire en ce sens. Je reste avec l'homme que j'aime depuis toujours. S'il doit mourir, je mourrai à ses côtés. Et elle le fera, elle ira jusqu'au bout.
C'est pathétique, la façon dont vous racontez effectivement comment les choses se passent. Alors lui-même, donc, il passe à Côme, mais Nagio, il remonte encore vers le nord. Et là, ils sont arrêtés une première fois par un groupe de résistants. Les Allemands suggèrent à Mussolini, et c'est absolument incroyable de la façon dont vous le racontez, de mettre un uniforme de sergent de l'aviation allemande. Il essaie de se cacher. En fait, il est pris à Dongo le 27 avril, il est reconnu, fait prisonnier par un homme tout à fait extraordinaire dont vous parlez, le patron justement de la 52e brigade Garibaldi dans la région, qui est surnommé Pedro. En fait, c'est un comte italien, Pierluigi Bellini della Stelle, qui est monarchiste et qui lui veut faire conformément à ce qui est prévu, veut livrer Mussolini aux alliés.
Il faut savoir qu'en 1943, l'armistice entre les alliés et l'armée de Badoglio, il y a une clause qui prévoit qu'en cas d'arrestation des dirigeants fascistes, et en particulier de Mussolini, ils seront livrés aux alliés. Et Bellini della Stelle est sur cette ligne-là. Il n'a pas du tout envie, c'est quand même curieux, ce comte florentin qui dirige une brigade où il n'y a que des communistes, pratiquement. il décide donc d'être fidèle à cette clause et par conséquent de livrer Mussolini. Seulement, les autres vont arriver avant lui.
Alors les autres, c'est effectivement un certain Valerio, le colonel Valerio, qui est envoyé de Milan justement pour faire exécuter Mussolini. Pedro, entre-temps, a tenté de le protéger en cachant Mussolini et Clara Petacci dans un petit village, dans une petite ferme près de Giulino. Et c'est là, effectivement, que ce Valerio arrive, prend Mussolini et l'exécute purement et simplement avec sa maîtresse Clara Petacci. Alors, dans des circonstances, c'est lui qui les a racontées, Valerio plus tard, mais qui vous paraissent un peu étranges, Pierre Milza.
Elles paraissent étranges maintenant, d'autant plus que Valerio lui-même a repris son discours initial, article initial dans l'Unita, au moins 5 ou 6 fois, pour aboutir en 1975 à la parution d'un livre dans lequel il corrige quand même un certain nombre de propositions, du moins, c'est pas des propositions d'ailleurs, d'affirmations, et en particulier tout ce qui concernait le comportement de Mussolini, qui nous décrit comme quelqu'un de lâche, avec le visage complètement
vert de peur.
Et vous savez que c'est un peu une méthode dans le PC, c'était lorsqu'on veut considérer un adversaire politique, on dit ou qu'il a volé, ou qu'il a trahi, ou que c'est un lâche. Alors là, c'est un lâche. Il faudra donc qu'il revienne là-dessus. Mais il y a beaucoup d'autres témoignages et beaucoup d'autres interprétations qui vont jusqu'à dire... Eh bien, on n'est même pas sûr que ce soit Valerio qui n'ait pas été remplacé en cours de route par le numéro 2 du parti, l'adversaire de Togliatti, Luigi Longo, qui serait lui le véritable sino-auteur. Parce
Valerio.
Que, comme dit De Felici, la raison, c'est pas de savoir si c'est truc ou machin qu'a tenu le pistolet mitrailleur, mais qui a donné l'ordre et qui était présent.
Et c'était donc
Peut-être, selon cette interprétation, que je présente non pas comme un article de foi, je suis extrêmement prudent dans ces affirmations, qui pourrait être donc ce fameux colonel Valerio.
Ça se serait passé le 28 avril 1945 à 16h et annoncé le lendemain par la radio de Milan.
Oui, Radio Milano Liberata.
Ici Radio Milan Libéré. Les volontaires de la liberté se sont emparés aujourd'hui à 16h, près de la ville de Giulino, province de Côme, de Mussolini, de la Petacci et d'autres responsables. Ils ont été jugés lors d'un procès bref, mais régulier. Le Comité de Libération Nationale de Haute-Italie déclare que l'exécution de Mussolini était la conclusion nécessaire d'une phase de l'histoire qui a vu la dévastation morale et industrielle du pays et la conclusion de l'insurrection qui annonce la renaissance et la reconstruction de l'Italie. Le peuple italien ne pouvait pas retrouver une vie libre et normale que le fascisme leur a ôtée pendant 20 ans si l'Italie n'avait pas exécuté une sentence déjà prononcée par l'histoire.
Et c'était donc l'annonce de la mort de Mussolini par la radio de Milan. C'était le 30 avril, c'est-à-dire deux jours après cette exécution, parce qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose de terrible. Alors là, que tout le monde a pu voir au moins en photo, Pierre Milza, c'est l'espèce de cérémonie qui s'est produite le lendemain de la mort. Mussolini est donc exécuté près du lac de Côme le 28. Et le 29, une camionnette décharge son corps littéralement sur une place, la Piazza del Loreto. D'ailleurs, la Piazza del Loreto, où s'était produit, on l'a dit tout à l'heure, l'exécution de 15 résistants 8 mois plus tôt. Et alors là, la foule se déchaîne sur son corps, sur celui de Clara Petacci. C'est assez terrible ce qui s'est produit à ce moment-là.
C'est un phénomène de catharsis, c'est-à-dire la foule se décharge de ses propres péchés, entre guillemets. Les Italiens, jusque au milieu de la période de la guerre, ont continué de suivre Mussolini. Un consensus mou, peut-être, mais c'est à partir du moment où il y a eu les grandes défaites, les bombardements, la famine, etc., que le régime a été véritablement condamné par la population italienne. Mais qui vient sur ce Piazza del Loreto? On peut se poser la question. Est-ce que c'était les mêmes que ceux qui avaient applaudi le Duce en septembre 1944? Non, je crois qu'effectivement, le peuple milanais vient se laver, en quelque sorte, par un acte de barbarie que laisse faire le nouveau pouvoir. On a un texte de Pertini du lendemain dans lequel il dit il fallait bien que ça se passe, il fallait bien qu'on règle les comptes avec le passé, d'autant plus, alors ça c'est la thèse toujours traditionnelle du pouvoir dans ce cas-là, que qui était finalement responsable de tout ça? C'était bien le Mussolini et c'était bien les fascistes.
Cet accord méconnaissable, donc, qui est pendu sur une poutre d'un garage, justement, sur de cette Piazza Loreto à Milan, et devant des millions, enfin des milliers en tout cas, de spectateurs, ce qui n'était pas le cas de ce qui s'était produit la veille et qui est, sur lequel plane beaucoup de mystères. Alors vous en mentionnez deux notamment, il y en a d'autres dans votre livre, Pierre Milza. D'abord, selon vous, c'est le Parti communiste, c'est Luigi Longo qui a ordonné la mort à Valerio d'exécuter Mussolini. Puis il y a une thèse aussi qui est très étrange. Vous dites que derrière, les services secrets britanniques voulaient aussi la mort de Mussolini.
Alors, faut d'abord savoir, pour la première question, que je ne dis pas que c'est Luigi Longo qui a fait assassiner Mussolini.
Que c'est le PC.
Je dis que... Oui, c'est le PC et les autres. L'ordre vient également des socialistes, des démocrates chrétiens, etc. Enfin, du comité. Non, je dis qu'il est crédible de réviser ce jugement et qu'après tout, il est possible que Luigi Longo ait été substitué à un certain moment.
Bon. Et la thèse de Churchill?
Alors, la thèse de Churchill, c'est pareil. Il faut la regarder avec prudence, mais elle est quand même assez séduisante. Et d'ailleurs, nous parlions de Felice tout à l'heure, le biographe de Mussolini, le grand historien de Felice, mort il y a une quinzaine d'années, pour lui, c'était quelque chose d'acquis. Il prétendait même avoir les papiers, les documents qui montraient que Churchill avait au moins mis la main,
Je résume, il ne voulait pas de procès parce que ça reviendrait à dire que, à rappeler, Mussolini l'aurait fait avec les documents qu'il avait avec lui, il aurait prouvé que les bons rapports qu'avaient Churchill et Mussolini avant la guerre.
De Felice allait beaucoup plus loin sans en avoir la preuve en disant qu'il y avait une ou deux lettres qui disaient carrément qu'il inclinait Mussolini, il poussait Mussolini à entrer en guerre en 1939 pour que finalement l'Italie soit présente à la table des négociations et soit donc un petit peu moins dure vis-à-vis des Anglais. Non, ce qui est quand même troublant, c'est la présence de très nombreux agents de l'Intelligence Service et le fait que Churchill avait intérêt effectivement qu'on ne ressorte pas des placards tous les discours qu'il avait prononcés pendant la période de l'entre-deux-guerres. Certains dataient des années 20, tels que celui où il dit « Si j'étais italien, si j'avais été italien, j'aurais été fasciste ».
Merci Pierre Milza. Pour en savoir plus, pour savoir plus aussi sur ce qui est devenu ce fameux trésor de Dongo dont vous parlez, eh bien on peut lire votre livre « Les derniers jours de Mussolini », un livre passionnant qui vient d'être publié chez Fayard. Vous avez pu entendre un extrait du film suivant, « Les derniers jours de Mussolini » de Carlo Lizzani. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Fabrice Desmas et Julien Dumont, documentation et archivina Camille Pouche, Jalagui et Frédéric Martin et Franck Olivard, traduction de Lionel Thompson et Régis Lachaud, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans notre émission, les Roms, un sujet d'actualité, donc en ce moment, une histoire des Roms.